vendredi 13 juin et il est 5h.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au programme du 5-6 ce matin. Une amoureuse de la voile qui pilote tout depuis la Terre rencontre dans les chroniques littorales des découvertes venues d'Asie. Gros plan sur l'umami, cette saveur mystérieuse dans la chronique d'où ça sort. Découverte venue du Royaume-Uni aussi, la belle voix soul d'Olivia Dean, et ça sera dans la playlist. Notre invitée déjà debout est vigneronne. Elle fait en ce moment un grand périple en France pour fêter les 120 ans d'exploitation de son domaine. On l'appellera à 6h moins le quart. Il sera question des accidents du travail dans le Zoom. Et puis, qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire à part être seule dans son lit? En ce petit matin, on parle des groupies dans Café Philo juste avant 6h. Et moi, je vous accompagne jusqu'à 9h. C'est parti. Et ça commence par le journal de Laura Dulieu. Bonjour, bonjour Laura.
Bonjour.
D'abord l'information de ces toutes dernières heures, celle de la nuit qui est spectaculaire. Israël a attaqué l'Iran cette nuit.
Et plusieurs sites militaires et nucléaires ont été ciblés, dont une usine d'enrichissement d'uranium. On retrouve tout de suite le correspondant de France Inter à Jérusalem, Thibault Lefebvre. Israël ferme son espace aérien et déclare l'état d'urgence.
Oui, en effet, l'État hébreu se prépare au pire après cette série d'attaques cette nuit sur l'Iran. Alors ce que l'on sait, c'est que ces attaques, ce sont des attaques préventives. Ça signifie que l'offensive est en cours, que ce n'est que le début et qu'elle durera aussi longtemps que nécessaire, selon Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre s'est exprimé au milieu de la nuit. Ton martial, le regard face caméra, il a clairement déclaré la guerre à l'Iran. L'aviation israélienne, appuyée par les services secrets extérieurs, ont visé trois types de cibles. D'abord, vous l'avez dit, le programme nucléaire iranien avec des frappes sur l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz. Deuxième cible, des usines de missiles balistiques près de Téhéran et de Kermanshah, notamment c'est à l'ouest du pays. Ce sont des missiles à longue portée qui peuvent toucher le territoire israélien en seulement 12 minutes. Selon les renseignements américains, l'Iran en aurait 2000 à disposition avec des ogives de près d'une tonne. Et enfin, troisième cible, des scientifiques et surtout le haut commandement iranien. Les médias iraniens confirment la mort du plus important responsable militaire du pays, le chef des gardiens de la révolution, Hossein Salami. Et l'Iran promet à l'instant une réponse forte à cette attaque israélienne.
Thibault Lefebvre en direct depuis Jérusalem. Et puis l'espace aérien iranien est fermé jusqu'à nouvel ordre. Et puis les conséquences de ces attaques, les cours du pétrole flambent de 10% cette nuit après ces frappes israéliennes. Donald Trump réunira aujourd'hui son conseil de sécurité nationale. Les États-Unis qui disent n'être pas impliqués dans ces frappes. Les États-Unis, où le déploiement de militaires de la garde nationale par Donald Trump à Los Angeles est illégal, selon un juge fédéral. Décision rendue à la suite du recours du gouverneur démocrate de la Californie qui s'y oppose. Le président américain a envoyé des milliers de militaires en début de semaine pour réprimer les manifestations en cours depuis plusieurs jours. Manifestations contre les arrestations d'immigrés sans procédure légale.
265 personnes ont été tuées dans le crash du Boeing d'Air India, selon un dernier bilan.
265 morts, dont 24 au sol. L'appareil s'est écrasé dans des bâtiments peu après son décollage. Et 241 morts à bord de l'appareil sur 242. Car un homme, un seul, a survécu. Un Britannique, il s'agit de Vishwas Kumar Ramesh. Sur une vidéo largement repartagée sur les réseaux sociaux, on voit cet homme de 38 ans, le regard hagard, le visage encore en sang, en train de marcher. Et c'est à la une de toute la presse du Royaume-Uni ce matin, Laura Calmus.
Le miracle de la place 11A, c'est le titre que consacre ce matin le Daily Star au seul survivant du crash. Le Times, plus sobre, évoque un crash, un seul survivant, et tente de revenir en détail sur les circonstances du drame. Ce survivant, un Britannique d'origine indienne, a raconté à la presse que tout s'était passé très vite. 30 secondes après le décollage, il aurait entendu un grand bruit, puis le choc. Quand il a ouvert les yeux, il raconte avoir vu des corps tout autour de lui avant de s'enfuir en courant. Il voyageait avec l'un de ses frères dont il est aujourd'hui sans nouvelles. À Leicester, un autre membre de la fratrie témoigne, bouleversé devant sa maison.
Quand l'avion s'est crashé, il a appelé mon père en visio en disant « l'avion s'est écrasé, je ne sais pas comment j'ai survécu ». Il était confus. déboussolés.
Les 52 autres ressortissants britanniques à bord n'ont pas eu cette chance. Parmi eux, un couple qui avait partagé quelques instants avant l'embarquement une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle ils évoquaient un voyage en Inde spirituel et magique.
Laura Calmus, correspondante de France Inter à Londres. Quant aux causes du crash, elles restent encore inconnues. L'agence américaine de sécurité des transports annonce envoyer une équipe d'enquêteurs américains à Ahmedabad en Inde pour prêter assistance à leurs homologues indiens. Nouvelle soirée de tension en Irlande du Nord, en proie à des violences racistes pour la quatrième nuit consécutive. Cette nuit, c'était dans une ville au sud-ouest de Belfast où des manifestants se sont rassemblés en scandant des slogans anti-immigrés. Ils se sont opposés aux forces de l'ordre. Les violences étaient jusque-là concentrées dans la ville proche de Ballymena, dans un quartier de ressortissants étrangers qui sont obligés de se cacher. Ces émeutes ont éclaté après l'inculpation de deux adolescents pour une tentative de viol. Le prochain bateau est prêt à partir. Les mots de Rima Hassan, place de la République à Paris, hier à son retour d'Israël, d'où elle a été expulsée en même temps que cinq autres activistes après l'interception par la marine israélienne du Madlin dans les eaux internationales. Le bateau humanitaire était en route vers Gaza. Deux ressortissants étrangers sont encore détenus par Israël, dont le journaliste français pour Blast, Yanis Mamdi. Emmanuel Macron va-t-il reconnaître la Palestine au nom de la France? Le chef de l'État doit s'exprimer cet après-midi à la conférence de la société civile pour la solution à deux États. Il s'était engagé à reconnaître la Palestine début avril, mais les pressions d'Israël sont fortes. 147 pays reconnaissent déjà officiellement le pays.
5h06 sur France Inter. Après un an de détention à 17 000 km de chez eux, les voilà libres.
Les cinq militants kanaks de la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain soupçonnée par la justice d'être derrière les émeutes de l'an dernier en Nouvelle-Calédonie. Parmi eux, le leader indépendantiste kanak Christian Théin, qui a pu quitter la prison de Mulhouse dans la soirée hier. La chambre de l'instruction a validé cette remise en liberté sous contrôle judiciaire. Et au regard du dossier que vous avez pu consulter, Delphine Evenou, la participation active de ces militants aux violences pose question.
Depuis un an, le dossier s'est épaissi de milliers de pages de procédures, de centaines d'écoutes téléphoniques, de dizaines d'heures d'interrogatoires, d'auditions de nombreux témoins. L'enquête a établi l'organisation de la CCAT, l'identité de ses membres actifs et la stratégie. Mais le dossier, passé des mains des juges de Nouméa à ceux de Paris en janvier, montre aussi, par des surveillances, des témoignages, des analyses des réseaux sociaux, qu'il y a eu, de la part de militants mis en examen, des contrôles pour éviter alcool et armes sur les barrages et des appels au calme. Le parquet note également qu'il n'y a pas d'éléments incriminants dans l'analyse des supports informatiques utilisés par Christian Théin. Le leader kanak, qui est venu préciser par ailleurs lors de son dernier interrogatoire fin mai, la phase 3 de la stratégie de la CCAT décrite dans la synthèse des enquêteurs en juin 2024. Il s'agissait d'une crise institutionnelle, la démission des élus pour bloquer l'économie, pas d'une confrontation. Les avocats des cinq militants kanak ont tous dénoncé hier à la barre le manque d'éléments probants contre leurs clients.
Et Christian Théin s'est engagé à répondre aux convocations de la justice en habitant chez sa compagne à Mulhouse, qui y avait déménagé pour le soutenir. En Haute-Marne, le collégien de 14 ans qui a tué au couteau une surveillante mardi à Nogent a été mis en examen pour meurtre hier et placé en détention provisoire. Devant le juge, il a confirmé ses déclarations lors de sa garde à vue, à savoir qu'il ne visait pas en particulier cette surveillante, mais qu'il avait voulu tuer n'importe laquelle.
C'était le journal de Laura Dulieu. Il est 5h08 sur France Inter.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
C'est le jour le plus chaud, mais ça pourrait tonner, Elodie Calac.
Très chaud mais orageux, le soleil s'installe vite ce matin, un peu de grisaille tout de même vers le Languedoc-Roussillon et déjà quelques averses, voire un orage sur la Bretagne et la Vendée. Le thermomètre affiche encore 16 à 20 degrés sur bon nombre de régions ce matin, moins sur le nord-ouest, 13 à 16. Cet après-midi, la chaleur va monter d'un cran, c'est la journée la plus chaude de cet épisode. Il fera souvent 30 à 35 degrés, localement 36 dans l'est. Ce sera moins chaud sur le nord-ouest avec 22 à 30 degrés. Attention, en milieu d'après-midi et la nuit prochaine, le ciel va devenir chaotique de la Bretagne et des Pays de la Loire vers la Normandie, la région parisienne, puis les de France, avec des orages parfois violents, beaucoup de pluie en peu de temps, de la grêle, de fortes rafales de vent. Et puis sur le sud-ouest, on surveillera d'autres orages pour la soirée, avec de fortes pluies, de la grêle et des bourrasques aussi.
Elodie Calac de Météo France.
France Inter. Marion Lourd. Le 7-10. 5-6.
5h09 à suivre sur Inter, le paradoxe d'une voileuse qui ne quitte pas la terre dans les chroniques littorales. Après l'eau, on parle vin avec notre invité déjà debout, vigneronne en goguette pour l'anniversaire de son domaine. Ça sera à 6h moins le quart. On goûtera l'umami dans la chronique d'où ça sort. Et puis Charline Vanhoenacker explose les faits. Elle nous raconte les pêcheurs de plastique à 5h25. Dans quelques minutes donc, les chroniques littorales, mais d'abord musique. Avec les sonorités électroniques d'Éloi, on écoute Château Fort, extrait de son dernier album Blast.
Je grille les feux devant, je connais que les rances. Le temps file, c'est vite que je mélange. Je prends pas le temps de vérifier, tu m'expliques. Je vois les étoiles fuir, elles sont pas de mérite. Tout est riche, je resterai sur le port si je mérite pas de guérir. Je grille tous les feux devant, je connais que l'errance. Le temps file, c'est vite que je mélange. Je prends pas le temps de vérifier, tu m'expliques. Je vois les étoiles fuir, elles sont pas de mérite. Tout est riche, je resterai sur le port si je mérite pas de guérir.
D'Éloi en concert dans de nombreux festivals dans toute la France et le 28 juin au Solidays. 5h12 sur France Inter, c'est l'heure des chroniques littorales. Bonjour José-Emmanuel Lamarque.
Bonjour Marion Lour.
Les chroniques littorales du vendredi consacrées à des portraits de gens de mer et ce matin une mérienne de la côte.
En la personne de Vanessa Bouler, Marion. Vanessa Bouler, bonjour.
Bonjour.
Vanessa Bouler, vous êtes la directrice de l'association Classe 40 au Sable d'Olonne. Alors les Sables d'Olonne, on connaît parce que c'est le Vendée Globe, mais il y a d'autres classes de bateaux, la Classe 40. Ce sont des bateaux de 12 mètres, ce sont des bateaux à quilles. Et particularité, alors vous, vous êtes dans la voile, mais vous ne naviguez pas.
Exactement. J'ai grandi avec les bateaux et la course au large parce que mon père particulièrement est dans ce milieu-là. Mais moi, ouais, j'aime aider les gens à participer aux courses, mais je préfère être sur le ponton que sur le bateau.
Mais de temps en temps, vous partez quand même.
Exceptionnellement.
Exceptionnellement. Alors, qu'est-ce qui fait justement que vous ne naviguez pas, mais vous êtes une fan de la voile, vous êtes une amoureuse de la mer, amoureuse de ces bateaux?
Parce que c'est un milieu qui fait rêver, qui fait voyager, où on allie sport et technologie et voyage. C'est très complet et j'aime beaucoup ça.
Et les Sables d'Olonne, c'est un choix?
Les Sables d'Olonne, c'est un petit peu le hasard parce que l'association existait avant que moi je vienne. D'ailleurs, je suis venue m'installer aux Sables d'Olonne pour rejoindre cette association. Mais c'est parce qu'à l'origine, la ville des Sables d'Olonne a aidé à la création de cette association.
Ah oui, voilà, comme pour le Vendée Globe. Et qu'est-ce que ça veut dire l'association Classe 40?
L'association Classe 40, c'est en fait une association qui réunit les skippers et les propriétaires des bateaux de la catégorie Classe 40.
Ce qui veut dire qu'avec skipper, propriétaire, vous connaissez tout du bateau, vous connaissez tout de la navigation, mais vous, vous les regardez faire.
Exactement. Et je suis parfois ravie de ne pas être à bord quand je vois les conditions.
Ah bah oui, non, mais ça, quelquefois, oui, c'est pour la traversée de l'Atlantique, je comprends. Et qu'est-ce qui vous fait vibrer dans ces courses à la voile ?
Je crois qu'en fait, moi, c'est particulièrement l'humain, plus que la technologie, même si ça reste quelque chose de très intéressant. Mais l'émotion au départ d'une course, le bonheur d'un skipper qui franchit la ligne d'arrivée, ou sa déception quand il venait pour gagner et que ce n'est pas le cas. Les émotions, finalement, que ce sport procure.
L'avantage pour cette association Classe 40, c'est que des hommes et des femmes partent en mer, mais ils savent qu'à terre, vous êtes là. Vous pouvez toujours donner un coup de main, même s'ils sont très loin.
Oui, bien sûr. On est là pour faire en sorte que tout se passe au mieux pour eux et leurs partenaires. Il faut qu'ils partent dans de bonnes conditions et on fait tout pour que ça soit le cas, tant d'un point de vue équité sportive, parce que ça reste quand même un sport, donc oui. On valide les bateaux, mais aider l'humain qui est déjà débordé par tout ce que lui demandent ses partenaires ou les organisateurs des courses.
C'est peut-être un conseil de temps en temps.
Un conseil peut-être pour ceux qui débutent, en leur expliquant que ça ne va pas être simple, mais qu'ils vont y arriver.
Qu'est-ce que ça veut dire la mer pour vous, donc, vous qui la regardez ?
Ah, c'est compliqué de répondre à cette question. Moi, j'ai grandi en bord de mer, en Bretagne. La mer, pour moi, c'est l'évasion, c'est ne pas savoir ce qu'il y a de l'autre côté, finalement, de l'horizon. Et eux, finalement, ils y vont. Et nous, on n'y va pas. Mais c'est vraiment cette notion de rêve et de voyage, je crois, qui est importante.
Ce qui veut dire que souvent, vous laissez traîner votre oreille quand ils parlent entre eux ou elles parlent entre elles.
Oui, et c'est rigolo d'ailleurs. Quand un skipper, quand il est en mer, qu'est-ce qu'il aime nous faire partager par ses photos, ses vidéos ? C'est la façon dont le bateau avance, les animaux qu'il rencontre. Ça, c'est incroyable. Les skippers du Vendée Globe, certains y vont pour voir les albatros. C'est vrai que nous, on ne les verra jamais, les albatros.
Et les fous de bassin.
Et les fous de bassin. Mais moi, j'ai grandi à Perros-Guirec.
Ah,
alors.
Bah oui. Le fou de bassin qui plonge dans la mer pour aller chercher ses sardines.
C'est ça. Et puis à l'inverse, le risque de rencontrer des baleines qui leur fait peur. Et heureusement, aujourd'hui, on met des zones de navigation de protection de ces animaux. Mais c'est aussi, sur le dernier Vendée Globe, alors nous, c'est moins le cas avec les classes 40, mais c'est quand ils aperçoivent au loin un iceberg. Et ça, c'est des choses qui sont quand même incroyablement peu ordinaires.
Vous avez encore un rêve en bord de mer ?
Peut-être qu'on rejoint un petit peu tout ça avec la propreté des océans et on voit quand même que on est obligé de mettre en place beaucoup d'actions pour que les gens fassent attention.
Merci à vous Vanessa Boulair. Rendez-vous avec vous au Sable d'Olonne, un site internet classe40.com. Bonne journée Marion Lourd.
Bonne journée José-Emmanuel Lamarque. Il est 5h16.
Le 5-6 sur France Inter.
Les unes de la presse ce matin ne vous raconte pas l'actualité du jour et pour cause, elle s'est produite trop tard dans la nuit, des frappes israéliennes contre plusieurs cibles en Iran, dont la capitale. Selon la télévision d'État, l'Iran promet une réponse forte et ferme son espace aérien. On y reviendra bien sûr longuement au cours de cette matinale. Le crash du Boeing 787 d'Air India revient en revanche en première page de plusieurs journaux. Photos impressionnantes sur la une du Parisien, une queue d'avion plantée dans un mur, des soldats casqués à ses pieds. Le journal s'intéresse aux hypothèses qui peuvent expliquer ce terrible crash juste après le décollage qui a tué 290 personnes au moins, écrivent les Échos. Du point de vue du quotidien économique, ça fragilise l'avionneur américain. Un terrible accident de plus, analyse le journal, et qui arrive à quelques jours du salon du Bourget, déjà mouvementé pour le secteur aéronautique avec la guerre commerciale de Trump. En une des Échos, encore une bien meilleure nouvelle dans nos cieux, la vasque olympique est de retour. Photo à l'appui dans un grand ciel bleu. La Palestine et Gaza intéressent aussi vos quotidiens. Semaine cruciale pour la Palestine, annonce l'Humanité, qui parle de l'initiative franco-saoudienne à l'ONU du 17 au 21 juin. Elle pourrait aboutir à la reconnaissance par Paris de l'État de Palestine. Acte fort sur fond de mobilisation croissante contre la politique de Tel Aviv. Palestine, Macron en quête de reconnaissance, renchérit Libération, qui nous montre un président chuchotant à l'oreille du prince saoudien Ben Salman. À 4 jours du sommet de l'ONU, le président hésite, annonce Libération. Il s'active pour convaincre, mais fait face à de nombreux obstacles. Tout autre préoccupation en une du Figaro. Gaza, 2 points. Que reste-t-il du Hamas ? S'interroge le quotidien. On parle gros sous aussi dans vos journaux. L'Opinion raconte un RN en voie de dédiabolisation sur les questions budgétaires qui a ouvert une réflexion sur cette règle d'or européenne des 3% de déficit. Face à l'impasse budgétaire, la tentation de l'impôt s'inquiète le Figaro. Le gouvernement cherche toujours 40 milliards d'euros pour boucler le budget de l'année prochaine. La détérioration de la conjoncture complique cette élaboration, analyse le quotidien. Allez, un homme heureux pour finir cette revue de une sur du positif. Regard vers l'objectif, barbe de rue, sourire et bras croisés. Il s'appelle Hugo Lloris, ancien gardien de but des footballeurs nationaux. Et il raconte son expérience aux États-Unis avec le Los Angeles FC. Il en semble ravi. À 5h19, comme tous les matins à cet horaire, un concept expliqué par Cyril Lacarrière. Aujourd'hui, gros plan sur le cinquième goût. Il y a le salé, le sucré, l'amer, l'acide, mais aussi l'umami, littéralement « goût délicieux » en japonais. Alors Cyril, d'où ça sort l'umami ?
Direction le Japon et le début du XXe siècle. Je vous propose de faire connaissance avec Kikunae Ikeda, à l'époque professeur au département de chimie de l'école des sciences de l'université impériale, qu'on appelle maintenant plus simplement l'université de Tokyo. Revenu au pays après des études en Allemagne et au Royaume-Uni. Et c'est important parce que c'est là-bas que le jeune homme s'initie au goût. Et selon la légende, c'est aussi là-bas qu'il aurait détecté un autre goût que ceux que nous connaissons, à savoir, on a commencé à le dire, le sucré, le salé, l'acide et l'amer. De retour à Tokyo, ce chimiste de formation se met en l'origine de cet autre goût, avec une question en tête. Pourquoi le dashi, c'est un bouillon à base d'algues, a-t-il un goût si particulier que rien ne permet a priori d'expliquer? En analysant cette algue, le kombu, il découvre un acide aminé qui répond au doux nom de glutamate monosodique, le MSG ou le GSM, nom officiel E621. Ouf. Le glutamate monosodique, on en trouve naturellement dans de nombreux aliments, ce qu'on appelle un agent de saveur ou exhausteur de goût. Ce goût, Ikeda, décide de lui donner un petit nom, umami, néologisme fabriqué de deux mots, umai, qui veut dire délicieux, et mi, qui veut dire goût. Et c'est ainsi, vous l'avez dit Mathieu, qu'on arrive à goût délicieux en 1908 au Japon. Chose étonnante, il faudra attendre près d'un siècle pour que cet umami soit reconnu ici en Occident comme un goût fondamental, au même titre que les quatre autres. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a pris autant de temps à l'accepter? Comment définir l'umami? Est-ce qu'on le trouve surtout dans la nourriture asiatique? A priori, non. Est-ce que cet acide aminé peut être néfaste pour la santé, comme le pensent certains? Pourrait-on découvrir encore d'autres goûts?
Les réponses dans le replay de Zoom Zoom Zen à réécouter bien sûr sur le site internet de France Inter. C'était Cyril Lacarrière dans l'émission de Mathieu Noël. Tous deux reviennent à 16h cet après-midi. Il sera question entre autres de Kama Sutra Senior. 5h21 sur Inter. Dans un instant, l'humour de Charline Van Hoenacker. Mais tout de suite, Bad Bunny, la star portoricaine au succès planétaire, chante Pitoro de Coco.
Otra Navidad. En la que te pedí otra Navidad que no está aquí. Feliz año nuevo, pero no tan feliz. Te dieron un beso a las 12 y no fui yo quien te lo di. Hace un año que yo estuve ahí, hace un año que yo estuve ahí. Hace un año tu primer abrazo fue solo pa' mí. Me tenía en las nubes y como un rayo caí, caí, caí. Y ahora ni una llamada, ni un solo mensaje. Los brothers me la montan, dicen que estoy en un viaje. Son las 12:04 y ya estoy bien loco, llorando y bebiendo pitorro de coco que me trajo abuelo pa' que vacilar. Siempre supe que era mala, no te creas que soy ciego. Yo cerraba los ojos y te besaba de nuevo. Con el doble 6 y doble 5 me trancaste luego. Tú y yo somos iguales, nos veremos luego. Me lo montan, dicen que estoy en un viaje. Son las 12:04.
Bad Bunny, retrouvé en concert en Europe l'été prochain.
France Inter.
À 5h24, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Charline Vanhoenacker. Tous les matins, dans le 7-10, elle explose les faits. Et mardi, elle racontait la reconversion forcée des pêcheurs du Nil. Le fleuve est tellement pollué qu'ils deviennent pêcheurs de plastique pour une ONG spécialisée dans le recyclage.
Un pêcheur du Nil remonte 30 kilos de plastique pour 6 kilos de poisson. L'ONG le paye 20 centimes d'euros par kilo de plastique remonté dans les filets. Près de Gizeh, le pêcheur gagne donc plus avec le plastique qu'avec le poisson. L'avantage, c'est que la bouteille vide de coca est plus facile à attraper que la perche. Du Nil, hein, le poisson, pas la perche, sinon oui, c'est fait pour. C'est là, ouais. La source de cette information, pas du Nil, c'est la presse égyptienne relayée par Courrier International. Il faut dire que l'Égypte est le plus gros pollueur du monde arabe. Là-bas, les poissons sortent de l'eau déjà emballés. Très pratique pour la mise en rayon. En grande surface, on aura bientôt des barquettes de filets cabillauds pêchés en Atlantique Nord et son emballage aussi. C'est important la traçabilité. Parce que croyez pas qu'en France, on soit à l'abri. Même ici, les parties de pêche ont beaucoup changé. Alors Thierry, ça mord ce matin, t'as pêché quoi ? La pochette du CD de Florent Pagny, un sachet de salade. Le plastique étant fabriqué à partir de pétrole, c'est vrai que quand on balance un sac en plastique dans l'océan, c'est un petit peu comme une marée noire, mais multicolore. Par endroits, l'océan est tellement pollué que les poissons ont l'impression de nager dans du Perrier. Dans 10 ans, oubliez l'idée d'offrir à vos enfants un aquarium avec un poisson rouge, offrez-leur directement une poubelle jaune. Bref, pour en revenir à l'Égypte, l'ONG en question recycle le plastique récupéré par les pêcheurs pour en faire un matériau de construction de leurs bateaux. Bon, après, il faut essayer de ne pas couler les bateaux, sinon il faut tout recommencer à zéro, vous voyez. Alors, on devrait appliquer le même procédé aux chasseurs, leur proposer de ramasser les déchets dans la forêt, et après, on leur fabrique des jolis pistolets en plastique. Vous voyez, les pêcheurs, les associations peuvent être aussi efficaces que 50 chefs d'État qui sauvent l'océan en discutant devant un filet de lieu jaune et sur son émulsion de crustacés. Oui, les dirigeants veulent s'engager pour la défense des océans. Moi, je veux m'engager à faire plus de sport. Vous voyez que bien que la volonté ne suffit pas toujours. Hier, Emmanuel Macron a déclaré « Les abysses ne sont pas à vendre » après avoir offert un mont sous-marin au prince de Monaco il y a 3 jours. Donc apparemment, les fonds marins ne sont pas à vendre, ils sont juste à offrir. Oui. Cela dit, je ne doute pas que le président soit vraiment investi dans la sauvegarde des océans. D'ailleurs, je propose que pour sa prochaine sortie en mer, il attache un filet à l'arrière de son jet-ski pour récupérer tous les déchets qui traînent. Hein, comme c'est pour faire des ronds dans l'eau, il n'y aura vraiment plus le moindre bout de plastique qui traîne, il y aura juste une petite traînée de carburant à la place. Lors de la conférence à Nice, des pays appellent à ce que le plastique soit reconnu comme un déchet. Et là, vivement le traité pour expliquer que le pétrole, c'est pas une boisson. Je crois que pour l'instant, si on veut vraiment protéger les océans contre la pollution, le chalutage, la surpêche, les navires de croisière, il va falloir commencer par interdire les humains. Mais si on veut placer un petit peu d'espoir dans ceux qui dirigent la planète, on souhaite qu'ils se mettent juste un instant à la place des pêcheurs du Nil et qu'ils ramassent la bouteille à la mer jetée par les ONG.
France Inter.
Charline Vanhoenacker a savouré du lundi au jeudi 9h45 et demain samedi 19h20 pour Bistroscopie avec la sublime Anna Mouglalis. Dans une poignée de secondes, le journal.
Il y a très longtemps, en Grèce, tout pouvait arriver. Il fallait s'attendre à tout, en bien ou en mal.
Samedi 11h, Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Ces dieux, ces déesses, peuplaient le monde. Ils peuplaient aussi tous les esprits des femmes et des hommes. Leurs désirs, leurs pensées, leurs angoisses et leurs plaisirs.
Quand les dieux rôdaient sur la terre.
Quand un mortel a pu entreapercevoir le visage, ou plutôt l'un des visages de ces êtres divins, ça a mal tourné pour lui, la plupart du temps.
Une nouvelle histoire tous les samedis à 11h sur Inter, et en podcast quand vous voulez.
5h28 sur France Inter et voici Ali Badou qui vient
bonjour,
de
Marion
rejoindre
Lourdes
dans ce studio. Bonjour, comment allez-vous ?
Magnifiquement, le soleil n'est pas encore levé, mais un mot du programme d'aujourd'hui
oui,
avec le débat éco traditionnel du vendredi entre Thomas Porcher et Dominique Seux qui portera une nouvelle fois cette semaine sur les retraites. Est-ce la fin des 64 ans puisque la théorie c'est que le conclave entrera normalement dans sa dernière négociation. Et puis nous parlerons également de voitures. Faut-il vendre les voitures à essence ou diesel et continuer à les vendre après 2035 plutôt que des voitures électriques. Nous en débattrons avec eux. Et puis à 8h20, un plateau consacré aux réseaux sociaux, aux smartphones, à la difficile protection des jeunes après les propositions faites par le président de la République, notamment d'interdire les plateformes aux mineurs de moins de 15 ans dans les prochains mois. C'est un vrai sujet de société dont on parlera avec des experts, psychiatres, spécialistes. Ils seront tous avec nous dès 8h20.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
France Inter, il est presque 5h30. Le journal Laura Dulieu. Bonjour Laura.
Bonjour.
Les forces armées iraniennes promettent une réponse forte à l'attaque d'Israël la nuit dernière.
Attaque qui est toujours en cours. De nouvelles explosions ont été entendues à Téhéran. Une usine d'enrichissement d'uranium a été touchée plusieurs fois. Un haut commandant des gardiens de la révolution ainsi qu'un scientifique nucléaire ont été tués. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie nucléaire, dit travailler de près, de surveiller de près une situation profondément inquiétante. En Israël, l'état d'urgence est déclaré, l'espace aérien fermé. L'opération durera autant de jours que nécessaire, dit Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Emmanuel Macron va-t-il reconnaître la Palestine ? Le chef d'État français doit s'exprimer cet après-midi à la conférence de la société civile pour la solution à deux États. Il s'était engagé à reconnaître la Palestine début avril, mais à quelques jours du rendez-vous au siège des Nations Unies, Israël fait monter la pression. Son ambassadeur en France qualifie encore cette semaine de désastre une reconnaissance par Paris d'un État palestinien, au point que certains doutent que le président français aille au bout de ses intentions. En attendant, les négociations au plus haut niveau se poursuivent en coulisses, Julien Nenni.
Oui, d'ailleurs, même pendant son séjour à Nice en début de semaine, pour parler haute mer, pollution des océans et protection des cétacés, Emmanuel Macron poursuivait d'arrache-pied, selon l'Élysée, la préparation de cette conférence de New York. Coup de fil à Donald Trump et au président Sissi, SMS à l'émir du Qatar ou encore au premier ministre saoudien. Car si le chef de l'État se démultiplie sur le front diplomatique, c'est parce qu'il le sait, mercredi prochain, ce qui se joue pour lui, c'est aussi l'essentiel de son bilan sur le si sensible dossier palestinien.
Et dans le détail, Julien, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron met sur la table pour obtenir cet accord ?
Alors, pour que la fameuse solution à deux États et la reconnaissance de la Palestine ne se transforme pas en mirage, Emmanuel Macron a confié à sa conseillère Moyen-Orient, Anne-Claire Legendre, une mission: rassurer Israéliens et Palestiniens. Cette diplomate expérimentée s'est ainsi rendue discrètement sur place au début du mois pour exposer à toutes les parties les intentions françaises: garantie de sécurité pour Israël, désarmement du Hamas, loi sur les prisonniers, révision des manuels scolaires, élection d'ici un an en Palestine sous supervision internationale. Autant d'exigences qui figurent en plus de la reconnaissance d'un État palestinien dans ce que le Quai d'Orsay appelle la corbeille, c'est-à-dire le projet de communiqué final à New York. On avance, on obtient des choses, assure une source diplomatique qui reste prudente sur la conclusion de ces négociations, car d'après nos informations, un pays notamment se montre réticent ces derniers jours: le Royaume-Uni.
Merci Julien Nenni. Quant aux membres de l'équipage du Madeleine intercepté par Israël en début de semaine, 10 sont désormais rentrés chez eux. Hier, l'eurodéputée Rima Hassan s'est rendue place de la République à Paris juste après avoir atterri. Des centaines de personnes l'y attendaient. Elle promet qu'il y aura autant de bateaux que nécessaire pour briser le blocus à Gaza. C'était le but du Madeleine, ce bateau humanitaire intercepté en début de semaine dans les eaux internationales. Encore deux ressortissants sont détenus par Israël, dont le journaliste français Yanis Mamdi. Le déploiement de la garde nationale à Los Angeles est illégal, selon un juge fédéral. Donald Trump a envoyé en début de semaine dans la ville californienne des milliers de militaires sans l'avis des autorités locales pour réprimer les manifestations contre la politique migratoire du président américain. Une ingérence extraordinaire, dénonce ce matin l'administration de Donald Trump.
En Irlande du Nord, la pluie a ramené un semblant de calme.
Après trois nuits d'émeutes depuis lundi soir dans la ville de Ballymena, à une heure de Belfast, les rues étaient un peu plus silencieuses hier soir. Depuis lundi, donc, cette petite commune est le théâtre de violences racistes. Une quarantaine de policiers ont été blessés. Les forces de l'ordre affirment avoir évacué des familles d'immigrés cachées dans des greniers. Les violences ont éclaté après la tentative de viol présumée d'une jeune fille. Deux adolescents qui seraient d'origine roumaine comparaissaient en début de semaine devant le tribunal. Sur place, le reportage de Clémence Pénard.
Route
routes barrées, véhicules blindés, les policiers s'étaient préparés à affronter une quatrième nuit d'émeutes, surtout dans le quartier populaire de Clonavon, épicentre des violences, où réside Nigel, 63 ans.
On est tous à bout, épuisés par cette situation, c'est horrible. Il y avait des tensions récurrentes ici depuis quelques années avec les ressortissants roumains, liés à un gang criminel bien précis. Depuis lundi, tous les Roumains se sont enfuis. Ce qui se passe en ce moment, ça ressemble à un pogrom.
Et finalement, ce sont toutes les communautés immigrées qui ont été prises pour cible. Trois nuits de violence ont laissé des traces dans le quartier. Fenêtres cassées, portes enfoncées. Originaire des Philippines, Karen a préféré fuir.
C'était terrifiant. Ils ont lancé des pierres à nos fenêtres. Alors on s'est réfugiés chez des amis. Il fallait qu'on trouve un endroit sûr pour notre petit garçon.
Et dans l'espoir que sa maison échappe aux attaques, elle est venue accrocher, comme beaucoup d'autres habitants du quartier, un drapeau britannique à sa porte. Ailleurs, en Irlande du Nord, d'autres troubles mineurs ont éclaté dans la ville de Portadown ainsi qu'à l'est de Belfast.
Clémence Pénard. Christian Théin, le leader indépendantiste kanak, a quitté hier soir la prison de Mulhouse où il était en détention provisoire depuis plus d'un an dans le cadre de l'enquête sur les émeutes mortelles en Nouvelle-Calédonie. C'était au printemps 2024. Le militant de 57 ans reste sous contrôle judiciaire.
C'était le journal de Laura Dulieu. Bonne journée Laura. Une journée chaude encore aujourd'hui. Forts orages possibles sur le nord-ouest et le sud-ouest. Dès ce matin, des ondées parfois orageuses rentrent entre les Charentes et la Bretagne. De l'humidité possible aussi sur le littoral languedocien et la vallée de l'Aude. Ailleurs, le ciel est lumineux avec des nuages plus épais de la Normandie aux Hauts-de-France et aux Ardennes et un petit risque d'ondées locales. La dégradation orageuse arrivera en fin d'après-midi, d'abord en Bretagne, puis en Normandie sur les Hauts-de-France et l'Île-de-France, peut-être dans la nuit. Sous ces orages, le vent pourrait atteindre 100 km/h. Il pourrait même grêler. En parallèle, des orages venus d'Espagne arrivent dans le sud-ouest en fin de journée. Des orages plus isolés et moins sévères pourraient cet après-midi se déclencher entre le bassin parisien et les Ardennes. Le soleil devrait dominer sur l'est, avec toujours des températures élevées et même un pic pour cet épisode de chaleur. Il fera 22 à Brest et Cherbourg, 28 à Rennes et Nice, 30 à Biarritz, Ajaccio et Perpignan, 31 à Lille, 32 à Paris, Toulouse et Marseille, 33 à Bordeaux, 34 à Lyon et Strasbourg, 35 à Clermont et Nancy.
Le 5-6 sur France Inter.
Et on traverse la Manche ce matin avec la playlist de Mathieu Conquet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
Ce matin, vous nous parlez de la chanteuse anglaise Olivia Dean.
Une chanteuse qui vous donne le sourire. Écoutez. When I'm feeling independent, don't mean you're not enough. I thought we had some trust, so why are you lying? I ain't buying that. I told you what it was. You're protecting, overstepping. No, I don't have to choose. This is way less about me and way more about you. I love being in your space. Sometimes I need some. Ladies Room, ou l'art d'interroger en amour à travers une chanson. Vous écoutez là Olivia Lauryn Dean. Oui, ses parents étaient fans de Lauryn Hill. C'est une jeune chanteuse, elle est née en 99, elle a 26 ans, originaire du nord de Londres. C'est dans le borough de Haringey,
bien sûr,
hein, que les fans de foot connaissent comme vous pour l'équipe de Tottenham. Mais elle a choisi plutôt le théâtre au départ, diplômée de la Brit School où elle a bifurqué de comédienne à musicienne. Olivia Dean a commencé à jouer en autodidacte, guitare, piano. Elle écrivait ses premières chansons à l'âge de 16 ans, choriste puis soliste. Ses premiers morceaux sont sortis quoi, en 2019-2020. Mais si, décidément, le mot est en vogue. Hein. Mais ça, c'était avant le Layang. Son premier album lui a valu quelques nominations, 3 aux Brit Awards et l'intérêt d'un public grandissant. Alors, si vous êtes lecteur des tabloïds, vous la connaissez peut-être comme la petite amie supposée de Harry Styles. Si vous êtes plutôt fan d'Ezra Collective, comme moi, vous l'avez entendu chez eux, l'Angleterre nous a offert bien des voix hein, dans ce registre soul, R&B. Vous pensez à Céleste, Georgia Smith, Amy Winehouse.
Oui.
Ça fait beaucoup depuis Dusty Springfield. Et tiens, puisqu'on est dans les références, écoutez sa version d'un classique des Supremes.
She said, love don't come easy.
cœur, Marion.
Je connais par cœur. C'est terrible. Olivia Dean qui reprend les Supremes sur France Inter, mais je l'ai déjà entendu ailleurs, il me semble, non?
Oui, dans la BO du dernier Bridget Jones, Mad About the Boy, sans doute, avec un nouveau single, It Isn't Perfect, But It Might Be, qui donnait déjà le ton de ce que devrait être son prochain album, The Art of Loving. Ah, vous avez deviné le programme.
En effet.
Annoncé pour la rentrée le 26 septembre, Olivia Dean fera une tournée cet été au Canada, aux États-Unis. Avant cela, elle sera surtout à l'Olympia, à Paris, lundi prochain. Alors visiblement, désolé, c'est complet, mais consolez-vous. Je vous fais écouter le premier extrait de son prochain album, Nice to Each Other, être gentil l'un avec l'autre. Ça a l'air naïf, mais on va dire qu'avec la voix d'Olivia Dean, on y croit.
À retrouver dans la playlist de France Inter. Et vous, Mathieu, on vous retrouve ce soir, 21h.
Mais j'espère bien, et je remets le son. Je vous parlerai du nouveau Yamé, d'un rappeur mexicain, de Sly Stone et bien sûr de Brian Wilson. À ce soir.
En voilà un beau programme à ce soir. 5h42, Zoom, ce matin, sur un accident mortel du travail. Chaque jour en France, 2 personnes meurent au travail, plus de 100 se blessent gravement. Et hier avait lieu à Nîmes le procès de responsable du groupe Paprec, un poids lourd du traitement de déchets. La société comparait en tant que personne morale pour homicide involontaire qu'un jeune salarié a perdu la vie en juillet 2023. Bonjour Vanessa Descoureau.
Bonjour.
Vous avez rencontré la famille de ce jeune homme mort à l'usine pour avoir fait son travail.
La vie de la famille de Jules, 21 ans seulement, a basculé le mercredi 26 juillet 2023. Ce jour-là, à 5h30 du matin, il part rejoindre l'usine de traitement de déchets, se souvient encore sa mère, Sylvie Pertet.
Il devait rentrer aux alentours de 14h. 15h15, je lui ai envoyé un SMS. Il ne m'a pas répondu. Et à 15h30, la police a sonné à ma porte.
Jules a été happé par une machine. En théorie, cet engin est éteint pour être nettoyé quand l'équipe du matin croise celle de l'après-midi. Jules intervient alors à l'intérieur, dans ce créneau de mise à l'arrêt. La machine est pourtant redémarrée.
Il m'a dit pas mal de choses, mais il m'a surtout dit qu'il allait démissionner parce qu'il ne travaillait pas en sécurité. À son retour de vacances, sa lettre de démission allait être posée sur le bureau. Il n'y a pas eu de vacances.
Le procès de ses employeurs du groupe Paprec doit enfin établir des responsabilités, espère Fabrice, le père de la victime.
Ce qu'il faut qu'ils sachent, ces gens, c'est que le deuil, on ne le refera pas. On n'a pas pu revoir notre fils pour faire notre deuil déjà, tellement cette machine l'avait abîmé. Et ça, il faut qu'ils le sachent.
Jules et sa famille ne savaient pas que 15 mois plus tôt, un accident similaire dans une autre usine Paprec, à quelques kilomètres de là, sur la même machine, avait gravement blessé un autre jeune homme, Paul, technicien de maintenance lui aussi. Un choc pour sa sœur Clara quand elle a découvert tout ça.
Beaucoup de colère et d'injustice, parce que je me dis, suite à l'accident de Paul, si les choses avaient été vérifiées et faites correctement, mon frère aujourd'hui serait toujours en vie. On n'a pas le droit de mourir au travail, donc aujourd'hui, nous, c'est notre combat pour les autres, et surtout pour qu'on n'oublie pas Jules.
Plus de 4 ans après ce premier accident, aucune date de procès n'a été fixée. Le site Paprec de Nîmes, lui, a été une nouvelle fois endeuillé. Fin mai, un salarié est mort, écrasé par un tas de plusieurs dizaines de kilos de déchets. Une enquête a été ouverte.
Nous avons sollicité le groupe Paprec qui nous a renvoyé vers l'avocat d'un des prévenus. Il garantit que les salariés sont formés et informés correctement. Ce sera une question centrale de ce procès, car cette étape judiciaire est capitale pour les familles endeuillées.
C'est l'espoir de Johanna, ce procès, parce que pour le moment, elle attend toujours des nouvelles de la justice pour la mort de son mari il y a près de 5 ans.
Il était technicien de maintenance dans une laverie industrielle. Il s'est retrouvé enfermé dans un sèche-linge. Il faut savoir, c'est des énormes machines. Il intervenait donc sur ce sèche-linge. Il y a eu un bourrage de linge. Il a basculé dans le sèche-linge. Un collègue est passé à côté, a remis la machine en route.
Johanna appartient au collectif Famille Stop à la mort au travail, qui se bat contre ce qu'elle appelle une hécatombe silencieuse. Et ça passe, dit-elle, par une culture de la prévention bien plus développée dans les entreprises.
Ça va prendre un temps monstre, on le sait, mais il faut que la mentalité, elle change là-dessus, de se protéger au travail. Un salarié, il est remplaçable. Un membre d'une famille ne se remplace pas.
La lutte contre les accidents mortels, c'est la priorité de l'État dans son dernier plan travail. Un spot institutionnel a été massivement diffusé à la télé, mais sans effet pour le moment.
Chaque jour, deux personnes meurent au travail.
Et Arnaud Mias, professeur de sociologie à l'Université Paris-Dauphine.
Les chiffres des accidents mortels ou graves continuent de progresser.
Pour ce qui concerne les accidents graves, il y a toute une forme d'organisation du travail, d'une intensification du travail qui est souvent la source de ces accidents, parce que toute la prudence qu'on peut mettre dans la réalisation de son travail et des fois saute parce qu'il y a une urgence à traiter, parce qu'il faut faire vite.
Les intérimaires sont plus exposés que les autres salariés, moins formés, les accidents sont 2 fois plus fréquents pour eux.
Le Zoom de Vanessa Descoureaux à réécouter sur l'application Radio France.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
Et il est 5h46, l'heure de contacter notre invité déjà debout, vigneronne au château de Pougelon dans le Rhône. Bonjour Marine Descombes.
Bonjour.
Alors pourquoi êtes-vous déjà debout ?
Alors je suis debout parce que cette semaine, du 9 au 19 juin, je suis en grande tournée pour fêter et célébrer nos 120 ans en HY Citroën, donc en tube Citroën, on sillonne.
Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une camionnette ?
C'est une vieille camionnette, effectivement, de livraison qui nous servait pour livrer nos vins à Lyon et à Paris, enfin, qui servait à mon grand-père.
Et donc, vous êtes en tournée, vous disiez, dans cette camionnette pour...
Voilà. Alors, donc, pour célébrer nos 120 ans, en fait, on reprend des tournées historiques que faisait mon grand-père pour aller à la rencontre de clients, de personnalités qui nous inspirent, de rencontres à l'improviste sur les routes de France, donc entre Lyon et Paris, en passant par le Beaujolais, bien sûr, et Chablis, qui sont les lieux de nos deux domaines viticoles.
Voilà, c'est les 120 ans donc de votre domaine, de l'exploitation de ce domaine où vous travaillez à Saint-Étienne-des-Oulières. Jour 5 de cette tournée qui dure, vous le disiez, jusqu'à 19 juin. Vous êtes à mi-course, ça se passe comment pour l'instant ?
Eh bah, bien, plutôt bien. On a bien chaud dans le HY, surtout à Paris. Là, on vient de rejoindre plutôt l'extérieur de Paris, puisque je me situe à 30 km de Paris, à Bussy-Saint-Georges. Ça se passe vraiment bien. On a la chance de rencontrer des personnes incroyables qui ont des parcours avec des savoir-faire historiques, familiaux. On présente nos rencontres, voilà, lors de cette grande tournée.
Vous-même, vous êtes la 5e génération de vignerons. Vous avez repris le domaine il y a 8 ans. Comment c'est arrivé ? Parce que c'était pas prévu.
Non, je dirais un peu par hasard. Je suis arrivée ici par hasard. Je devais pas du tout faire ça. Mon père hésitait en fait à arrêter. C'est comme ça que je suis arrivée. Et je ne suis pas seule puisqu'on est un trio. Je suis avec mon mari Kevin Gendard et mon frère François Descombes. Et nous, on a repris en 2018. On s'est lancé en fait dans la conversion d'agriculture biologique de nos vignes. Dans une démarche aussi un peu pionnière qui s'appelle l'agroécologie, la végétalisation en fait de nos vignes, la réimplantation de haies de bocage, la plantation d'arbres fruitiers pour plein de raisons, pour recréer de la biodiversité. On a la chance d'être en Beaujolais, d'avoir des arbres et au niveau du domaine en fait d'avoir une petite réserve de biodiversité, et ça on l'étend dans le vignoble qui est juste autour de notre parc. En fait, on a le château de Pougelon qui est un château, qui est un parc, et juste autour en fait on a toutes nos vignes.
Donc vraiment un gros changement là, changement de nature.
Gros changement de direction, pour nos vignes, également dans nos vinifications qui sont des vinifications très naturelles, avec très peu d'intrants. Je ne sais pas si c'est très compréhensible,
oui,
mais en tout cas très naturel.
Les produits chimiques qu'on peut ajouter pour faire pour grandir, tuer les insectes, etc. Disiez donc votre grande tournée anniversaire, elle se termine le 19 juin, c'est donc jeudi prochain. Il y aura une troisième édition de la Guinguette des Combes au domaine familial de Saint-Étienne-des-Oulières. Donc il y aura une grande fête en clair.
Chez Famille des Combes à Saint-Étienne-des-Ouillères, donc notre domaine, on organise un petit concert, on pourra se restaurer, c'est hyper festif, c'est la troisième fois effectivement qu'on le fait, et c'est ouvert à tous, c'est pour célébrer la fin de cette grande tournée, nos 120 ans. Sur inscription, on attend environ 300 personnes.
Et donc, chers auditeurs, si vous êtes dans la région, n'hésitez pas. Voilà,
merci.
L'appel est lancé.
Merci.
Marine Descombes, vigneronne au château de Pougelon.
Merci. Merci. Suivez-nous sur notre web-série et suivez-nous sur Famille
oui,
Descombes.
Oui, vous racontez tout ça en vidéo, j'ai oublié de le dire, effectivement, vous avez raison d'insister, vous racontez votre périple, votre grande tournée. Et c'est passionnant, merci beaucoup Marine Descombes de nous avoir répondu sur France Inter et continuez bien votre voyage donc.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
5h51 sur France Inter. Les réponses à toutes les questions des grands et surtout des petits, c'est dans les petits bateaux avec Camille Cronier et ses invités. Et aujourd'hui, Baptiste, qui est peut-être un peu casse-cou.
Et coucou les petites curieuses et les petits curieux. Ouïaïaï, je viens de me prendre le coin de la table.
Bonjour, je m'appelle Baptiste et j'ai 5 ans et demi. Et je veux vous répondre pourquoi on a des bleus quand on se cogne. Merci.
Merci Baptiste, tu veux une réponse à ta question. Pourquoi est-ce qu'on a des bleus quand on se cogne? Je suis avec une docteure Baptiste, spécialiste de la peau. Ça s'appelle une dermatologue et son pseudonyme, c'est-à-dire le nom qu'elle se donne sur les réseaux sociaux, c'est Dermatodré. Que répondez-vous donc à Baptiste Dermatodré?
En fait, quand on se cogne la peau, le choc va abîmer les vaisseaux sanguins qui sont dans la peau. Les vaisseaux sanguins sont les tuyaux qui transportent le sang entre le cœur et le reste de notre corps. Donc un tuyau abîmé, ça fuit. Donc le sang va sortir du tuyau, du vaisseau sanguin, il va se répartir dans la peau. Notre corps sait réparer la fuite, il va fabriquer un caillot, donc un bouchon pour reboucher le tuyau et que le sang ne sorte plus. Mais le sang qui a fui, qui se trouve dans la peau, il va falloir qu'il soit mangé, résorbé par des globules blancs, des sortes d'éboueurs qui vont passer dans notre corps. Et le sang, au départ, il est rouge parce qu'il y a de l'hémoglobine dedans. Mais une fois qu'il est mangé, au fur et à mesure, il va devenir d'abord un peu violacé, et puis ensuite jaune, verdâtre. Donc ça, c'est normal. C'est l'évolution classique d'un hématome, d'un bleu.
Ah oui, c'est pour ça. Donc on voit au moment vraiment où on se cogne très fort, c'est rouge. Rouge. Après, ça devient quand même très, très vite bleu.
Oui, bleu violacé.
En fait, les veines, en fait, hein, un peu. Puis, puis, un peu.
plus foncé.
C'est ça, bah parce qu'en fait, ça suit ce qu'on appelle les teintes de la biligénèse, c'est-à-dire que l'hémoglobine, au départ, elle a de l'oxygène dedans, mais forcément, quand elle fuit dans la peau, bah, elle perd cet oxygène, et puis ensuite, elle est dégradée par le système immunitaire, et elle va finir avec une couleur un peu jaune-verdâtre, comme la bile. La bile, c'est une sécrétion du tube digestif. On le voit parfois quand on vomit, et c'est un peu verdâtre, bah, ça suit la même coloration.
Et ça met combien de temps à peu près pour se réparer alors ?
Ça dépend des cas. Un petit bleu, ça peut être quelques jours. Un bleu plus important, ça peut être des semaines, voire des mois à se résorber.
Et pourquoi parfois quand on se cogne, on a un bleu et ça fait des bosses en fait, tout simplement ?
Ça dépend du volume du sang qui a fui dans la peau. S'il y a un gros volume de sang, bah forcément, ça va faire une bosse. Il peut aussi s'ajouter à ça un phénomène d'œdème, c'est-à-dire qu'en donnant un coup, on va taper sur des vaisseaux sanguins donc qui amènent du sang, mais on va aussi taper sur des vaisseaux lymphatiques. Il va y avoir une inflammation, c'est-à-dire un appel de liquide vers cette zone pour cicatriser. Donc, ça fait un afflux de liquide sur cette zone, donc un œdème, une bosse.
Et dermatodré, moi, par exemple, dès que je me cogne quelque part, je sais que je vais avoir un bleu. Pourquoi il y a des gens qui ont des bleus plus facilement que d'autres ?
Ça dépend de beaucoup de choses, de la texture de la peau, de votre capacité à coaguler. Les personnes, par exemple, qui ont un médicament qui les empêche de coaguler, de faire le caillot pour boucher le vaisseau sanguin abîmé, à peine ils se cognent, ils font des très gros bleus. Et puis les personnes âgées qui ont la peau qui est devenue très fragile aussi, il n'y a plus le matelas de collagène, le matelas de chair par-dessus, donc à peine ils se tapent, pareil, ça fait des bleus. Et globalement, les femmes aussi, de manière générale, on a tendance à avoir plus de bleus que les garçons.
Pourquoi ?
Pour des questions hormonales aussi, il y a plus de perméabilité vasculaire, ça dépend des périodes du cycle aussi.
Mais on est d'accord, c'est pas grave en fait. Si Baptiste se cogne, il a un bleu, c'est pas grave.
Non, c'est pas grave Baptiste, tu es très costaud et tu vas y arriver.
Voilà, costaud face aux bobos. Et salut les matelots !
Les petits bateaux, à retrouver quand vous voulez sur l'appli Radio France.
Et salut Camille Cronier, on vous retrouve juste après le journal de 20h.
France Inter. Le 5-6.
Et c'est l'heure du Café Philo. Bonjour Patricia Martin.
Bonjour Marion Lourd.
Et on parle de personnes qui nous écoutent peut-être, parce qu'il paraît qu'elles passent leur nuit sans dormir. Ce matin, vous nous parlez des groupies, de leur splendeur et de leur misère.
Oui, les groupies, les fans, hein, c'est un peu la même chose, sauf qu'une groupie est d'abord une fan, et il y a quelque chose de plus charnel, on va dire, dans le terme groupie. Les groupies sont plus souvent des femmes, de très jeunes femmes, raison pour laquelle le terme même est un rien méprisant. Et c'est bien connu, franchement, une fille qui hurle à un concert est une hystérique.
Bien sûr.
Alors qu'un homme qui crie un match de foot est enthousiaste.
Évidemment. Et quand on peut la faire remonter, l'apparition de ces groupies ?
Grosso modo, au milieu des années 60, avec Frank Zappa, avec évidemment les Rolling Stones, oui. Sans oublier Elvis Presley ou Frank Sinatra. En tout cas, dans une acception moderne. Parce qu'à Rome, figurez-vous, les gladiateurs suscitaient déjà beaucoup de ferveur. Oui, les filles étaient folles. Et au 19e siècle, quelqu'un comme Franz Liszt provoquait des transes, voire des évanouissements.
Rien que ça.
On peut aussi penser à Bergson, dont les cours au Collège de France suscitaient beaucoup d'excitation. Comme quoi, il n'y a pas que Claude François dans la vie. Évidemment, Internet et les réseaux sociaux ont changé la donne.
Et là, on peut parler d'une communauté de groupies, d'une culture partagée.
Et pour le groupe ou la star, star de cinéma incluse, d'ailleurs, c'est une valeur ajoutée. Lucas Fox, cofondateur du groupe britannique Motorhead, ce fut comme un nouveau souffle, hein, Motorhead, à la fin des années 70. Lucas Fox.
En ce qui concerne Motorhead et la plupart des groupes dans lesquels j'étais, les fans représentent quelque chose de précieux et le respect envers les fans, c'est énorme. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de respect pour les fans. Dans le métier, on a une expression anglaise qui s'appelle, traduite, c'est « cul sur siège ». Sans les culs sur siège, il n'y a personne sur scène. C'est eux qui nous payent le loyer, c'est eux qui nous payent nos bières et tout. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de respect pour les fans. Et pour moi, ça, c'est le respect des fans, c'est essentiel. Et ce n'est pas une histoire mielleuse, c'est une histoire de respect. Que sans ça, pour moi, on rate quelque chose dans les deux sens. Les fans devraient avoir cette relation de bonhomie et de contact, sans pour autant enlever la magie. Parce que quelque part, toute fan de rock ou de n'importe quelle musique, n'importe, même les acteurs, quelque part, il faut rester quand même un ovni, un genre de... Ils n'ont pas envie de rencontrer la personne qui vit à côté de chez eux. Donc toujours, quelque part, il faut garder cette, euh, cette magie, faut pas casser la magie.
Le cofondateur de Motorhead, qu'on s'attendait pas à entendre dans votre café film, je vous l'avoue.
Mais non, il parle bien français. Hein.
Il parle parfaitement bien français, mieux que moi. Rendez-vous ce soir dans leur philo. Sophie Bénard et Mishka Assayas sont vos invités. Elle publie un essai intitulé Splendeur et misère des groupies, c'est aux éditions Genre. Et lui, un very good trip consacré à Bob Dylan, une coédition France Inter, évidemment. À ce soir, Patricia.
À ce soir, Marion.
20h10.
France Inter présente
le podcast Espion, une histoire vraie.
Stéphanie Duncan.
Une série de portraits d'agents secrets pour plonger dans les eaux troubles de l'histoire. De Paris à New York, en passant par Moscou, Buenos Aires ou Téhéran, suivez les aventures fascinantes de ces hommes et de ces femmes au destin hors du commun.
Espion, une histoire vraie.
Retrouvez tous les épisodes sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
5h58.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Élodie Calac, le jour le plus chaud et quelques éclairs.
Encore du soleil, des orages et de la chaleur. C'est la journée la plus chaude de la semaine, avec ce matin 13 à 16 degrés sur le nord-ouest, mais souvent 16 à 20 ailleurs. Cet après-midi, 36 degrés attendus à Grenoble, 35 à Nancy, Besançon, Bourges et Limoges, 32 à Bordeaux, Toulouse ou Marseille, 31 degrés à Lille, à Paris, 29 à Rouen et à Nantes et 22 à Saint-Brieuc. Le soleil brille sur une grande partie du pays, parfois un peu voilé. Patience, il y a des nuages bas ce matin sur le Languedoc-Roussillon, poussés par le vent de sud-est. Sur la Vendée et la Bretagne, quelques averses possibles dès ce matin, parfois avec un orage. Ça va se gâter nettement entre cet après-midi et la nuit prochaine. Le ciel deviendra menaçant de la Bretagne et des Pays de la Loire vers la Normandie, le bassin parisien, puis les Hauts-de-France, avec des orages potentiellement violents, des pluies intenses, de la grêle et de fortes rafales de vent. D'autre part, une nouvelle salve orageuse remontera sur le sud-ouest ce soir, avec des orages forts, de fortes pluies, de la grêle, des rafales de vent pouvant dépasser les 100 km à l'heure. Soyez très prudents.
Et merci Élodie Calac de Météo France. Ali Badou est de retour.
Et oui Marion.
Ali, c'est parti pour le 6-9.
C'est parti, il est 6h pile.